France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Brigitte Lefèvre.
Elsa Boublil.
Avec tes défauts, pas de hâte. Ne va pas à la légère les corriger. Qu'irais-tu mettre à la place ?
Henri Michaud.
Henri Michaud.
C'est sur la danse des cygnes du ballet de Tchaïkovski que nous vous accueillons, Brigitte Lefèvre, chorégraphe, directrice du ballet de l'Opéra de Paris pendant 20 ans, directrice du Festival international de danse de Cannes Côte d'Azur. La danse sous toutes ses formes, on aurait envie de dire, puisque la programmation, en tout cas de ce festival qui aura lieu du 29 novembre au 15 décembre, va du ballet romantique au hip-hop, avec aussi et notamment, et c'est pour ça qu'on l'a programmé ce matin, une relecture du Lac des cygnes par Radwan El-Medeb et le Palais de l'Opéra National du Rhin, donc dans votre prochaine édition, un classique de la sorte qui va être revisité, c'est ça, hein ? Bonjour, déjà.
Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Non, oui, c'est revisité, mais je veux dire, c'est moins dans la dramaturgie que dans l'écriture.
D'accord.
Et il y a un côté un peu malarméen, si vous voulez, d'une page comme ça, qui se remplit avec des signes, avec des sons même. Mmh. Et c'est tout à fait intéressant, et c'est même séduisant.
Oui. Donc c'est ça, c'est votre vie, c'est la, on pourrait dire la danse, si on résumait les, tout ce que je viens d'énoncer. La danse est centrale, a toujours été là, depuis toute petite.
Ah oui, mais c'est la danse parce que j'aime le théâtre. Je suis présidente de la scène nationale de Clermont-Ferrand, donc qui est plutôt essentiellement théâtre et danse, aussi de présidente aussi, ça fait un peu sérieux, mais enfin, je prends ça au sérieux, de l'Orchestre de Chambre de Paris. Et c'est ça qui m'intéresse. Et chaque chose nourrit, mais ce qui est vrai, ce qui est central pour moi, c'est peut-être la danse qui a été à l'origine de tous les arts. Enfin, il y a discussion là-dessus. La danse est... Pour moi, c'est très important.
Cette phrase d'Henri Michaud qu'on a entendue en début d'émission, avec tes défauts, pas de hâte, ne va pas à la légère les corriger, qu'irais-tu mettre à la place? C'est une phrase de danseuse, on pourrait dire, en tout cas, on pourrait l'appliquer à la danse, en tout cas.
Non, c'est plutôt le contraire, si je peux me permettre, dans le sens que nous, on cherche toujours, on cherche toujours la perfection et on n'arrête pas de nous dire nos défauts. Et soi-même, on parle de narcissisme des danseurs et des danseuses, je pense que c'est faux. Je pense que c'est un narcissisme contrario, en fait, parce qu'on veut toujours être mieux. Et voilà. Et moi, ça m'est arrivé quand je recevais les danseurs et danseuses à la compagnie, tellement épris de perfection, j'en disais, écoute, qu'est-ce que tu vas faire de tes défauts? Tes défauts, c'est toi aussi, en fait. Mmh. Alors, on s'en amusait. Après, il fallait pas non plus plaisanter avec ça.
Mais c'est une façon de mieux s'assumer, de...
Oui, et puis d'avoir sa propre personnalité. La perfection n'existant pas, ça on le sait. Donc, il s'agissait pas de copier ce qui pouvait paraître parfait. C'était aussi, il y a plein de gens qui le disent et beaucoup mieux que ce que je suis en train de tenter d'exprimer. Michaud l'a dit très bien. Mais c'est ça, quoi. Je veux dire, on peut cultiver quelque chose qui fait sa différence, non pas pour se différencier, mais pour être soi-même pleinement et pour donner aux autres.
Le ballet, la scène théâtrale, l'art dramaturgique et la musique sont centraux dans votre vie. Ça tombe bien, vous êtes l'invitée de Musique et Moi ce matin, Brigitte Lefèvre, jusqu'à midi et demi sur France Musique. La marche turque interprétée par Menahem Pressler pour commencer cette émission avec vous, Brigitte Lefèvre. L'enfance, on commence, j'imagine, avec des œuvres d'enfance que vous avez entendues, que vous avez jouées.
Alors moi, j'ai pas joué parce que c'est ma sœur qui l'a joué sous la conduite vigilante ô combien de maman qui
était pianiste.
Et alors, généralement, on allait beaucoup moins loin que tout ce morceau de la marche turque qu'on a écouté jusqu'au bout, merci. Ouais. Mais c'est presque les premières mesures et ça se terminait dans le drame.
Ah bon ?
Et ça m'amusait parce qu'en fait, ça m'amusait un peu sadiquement peut-être, mais je me disais, oh là là, faut surtout que je dise à maman de ne jamais étudier ce morceau. Et je trouvais que ma sœur était formidable parce qu'elle continuait quand même. Elle continuait, et ça n'allait pas, les doigtés n'allaient pas, c'est pas ce qu'il fallait. Et maman était une femme que j'aime profondément, à la vie et à la mort, et qui aimait beaucoup ses deux enfants, mais elle préférait la marche turque au moment où elle l'enseignait à ma sœur.
Ah oui. Et quand ça se terminait en drame, c'était que, oui, c'était, elle ne parvenait pas à le faire, votre mère et votre sœur s'énervaient, c'est ça?
Voilà, bah, c'est le grand classique, ouais. Quoi. Dans une pédagogie peut-être plus vigoureuse que certains la souhaiteraient maintenant.
Votre mère était pianiste, j'ai lu à l'opéra, au ballet de l'opéra,
oui.
Et c'était son métier ?
Non, c'est un peu par hasard qu'elle est devenue pianiste à l'opéra. Ça, je ne veux pas la jouer trop longue, mais je veux dire, elle était concertiste. Hein. Mm. Et puis, bon, bah, la vie, elle nous a élevés seuls avec ma sœur, la sœur du marché turc. Et il fallait gagner de l'argent. Et elle se définissait comme pianiste en tout genre. Alors, elle jouait parfois dans des bars avec l'assiette qu'elle passait après. Et puis, elle jouait dans les cabarets, je me rappelle, l'Écluse, un cabaret que j'aimais beaucoup qui s'appelait Moineau, où j'ai vu des gens absolument formidables. Et j'avais un répertoire. Ne me demandez pas d'y aller de ma chanson, d'ailleurs, vous ne le ferez pas. Mais très, très développé. Et puis, en plus, elle faisait de la mise en scène pour les chanteurs.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, par exemple, j'aime me promener sur les grands boulevards. Alors, c'était complètement planqué, comme ça, ça va pas. Alors, leur apprendre qu'on peut légèrement swinguer. Et d'ailleurs, dernièrement, au grand hall de la chanson, Serge Roux m'a demandé, c'est un hommage à ma mère, d'une certaine manière, à donner des petites indications scéniques, comme ça, à des chanteurs. Et je les ai trouvés formidables, mais c'était bien sympathique.
Donc, vous avez appris le piano ou vous passiez plus de temps à accompagner votre maman jouer un peu partout? On a l'impression que vous étiez très très proche.
Oui, d'abord il n'y avait pas de babysitter ou même de garde d'enfants, donc j'ai été tout le temps souvent avec elle. Elle m'a, oui, la méthode rose, c'est quoi l'art des sons? La musique, c'est l'art des sons, tu me rappelles. Ouais. Voilà. Mais oui, j'étais baignée là-dedans, mais ça paraissait tellement naturel que maintenant j'aime bien en parler avec un air de dire, comme c'était formidable. Oui, c'était formidable, mais pour moi c'était absolument naturel et je remercie maman de me l'avoir permis.
L'île Joyeuse, c'est elle qui le jouait?
Ah, le jouet est très bien.
Thank you.
Philippe Bianconi interprète L'île joyeuse de Claude Debussy. Brigitte Lefèvre, c'est une œuvre donc que votre mère a interprétée, disiez-vous, merveilleusement bien.
Ah oui.
Et du coup, ça vous fait quoi de l'écouter par d'autres interprètes? Ça doit pas être simple, non?
J'ose pas dire parce que c'est un grand artiste qu'on vient d'entendre, ouais. Mais je trouve ça moins bien.
Ah oui, c'est ça.
Parce mais que je trouve ça moins bien parce qu'il y a cette respiration. D'abord, j'entendais dans son salon de musique, enfin, je dis ça un peu pompeusement, enfin, l'endroit où elle le jouait, et elle le faisait parce qu'elle préparait un concours. Elle préparait un concours, ce qui était d'ailleurs assez lourd. Il y avait même une épreuve à l'orgue. Mais là, voilà, là, c'était ça. Et je trouvais qu'elle le jouait avec une émotion, une énergie, et j'allais presque dire un désespoir. Mmh. Et dans cette musique, qui est comme un livre d'images, enfin, comme un. Voilà, ça me touchait beaucoup. Et je l'ai entendu. Il me semble que j'ai entendu par Lipati. Je sais qu'elle aimait beaucoup, Lipati. Mais pour moi, chaque fois que je l'écoutais, d'ailleurs, j'écoute très peu, merci de me permettre de la réentendre avec ce grand artiste, hein. Mais je pense à elle et je me dis vraiment, je sais pas, elle avait, pour moi c'était une grande artiste.
La danse, c'est venu en l'accompagnant au ballet de l'opéra, comment c'est venu à vous, Brigitte Lefèvre?
Alors j'ai une phrase un petit peu lapidaire et puis j'ai vu que ça plaisait bien donc je vais vous la redonner.
Pourquoi
<C'est>...
pas
il y a même un film qui a été fait grâce à France 3 qu'on a appelé Ma mère adorait la danse. Et alors je termine en me disant, ne laissons pas le suspense plus longtemps. Donc, la mère adorait la danse et moi, j'adorais ma mère. Donc, je me dis finalement, elle doit vouloir quelque chose de bon pour moi. Oui. Et j'en ai vraiment remercié parce que ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Dans ma jeune vie au départ et après, maintenant, je veux dire, ça m'a aidé à découvrir d'autres choses aussi. Justement, ne pas m'enfermer que dans la danse. La danse, c'est le mouvement. La danse, c'est la découverte aussi. La danse, c'est pas uniquement faire ce que l'on sait, mais découvrir ce qu'on ne sait pas, avoir d'autres appétits. Et j'aime cette sensation qu'il faut être à la fois discipliné et en même temps être rebelle. Mais pas rebelle dans le côté... Bah, être rebelle, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter, quoi. D'être toujours dans ce mouvement et de découvrir. Ça, c'est quelque chose qui a été très précieux pour moi. Et je suis une dame âgée maintenant, mais c'est pas fini. Je suis toujours dans ce mouvement. C'est ça qu'elle m'a inculqué elle-même dans sa personnalité. Et en me faisant découvrir la danse.
On l'entend en vous écoutant parler aussi, hein, Brigitte Lefèvre. On sent
que je suis
la pensée, que la pensée est en mouvement en permanence. Vous dites que ça vous a aidé. Ça vous a aidé personnellement, émotionnellement aussi, enfin, aidé sur, structurellement, vous dites.
Ben, moi, j'ai l'impression, alors là, je vais faire de plus en plus chic et non, malheureusement non, mais j'avais parfois l'impression que j'étais, en pensant à moi-même, beaucoup plus tard, je me dis, dans le fond, il y avait une part un peu niniste et schizophrène. Et là, il a fallu que je donne de moi, avec mes camarades, hein, parce que ce que j'aime bien dans la danse, c'est qu'on est ensemble aussi.
C'est le collectif.
C'est le collectif, ce que n'ont pas les instrumentistes, hein, la plupart du temps. Et en fait, on construit l'instrument pour pouvoir le faire résonner. Alors là, j'y vais carrément avec votre âme, avec l'esprit, avec le goût de donner. Mais il y a ça. Et si vous n'avez pas cette sensation que votre corps, c'est votre instrument et c'est vous qui devez le faire vivre, ben, ça marche pas.
Un peu comme la voix.
Oui.
On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie. Et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas, tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment. Tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Bidadili, one duty dear, oh, and dear, oh, but I don't know. Wamba window, but dear, da 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 da. Le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant.
Vous parlez de la voix, Brigitte Lefèvre, Michel Legrand qui interprète la valse des Lilas, qui est sa composition. On est dans une perfection fragile, pour revenir à ce qu'on disait en tout début d'émission.
Oui, alors, en fait, moi je l'écoutais en boucle, c'était une chanson pansement. J'ai eu je veux pas en parler trop longtemps parce que ça prend, mais j'ai eu un grand chagrin d'amour.
Ouais.
Et bon, bah, j'étais un peu embêtée, parce que j'étais tellement triste, tellement cette sensation d'abandon et tout ça. Et puis, j'ai entendu cette chanson et je la passais en boucle. Et je me souviens quand j'allais de chez moi, de la République, à l'opéra, j'allais souvent à pied et je prenais ce rythme lent de cette chanson, et avec les onomatopées aussi. Donc pas simplement les mots, mais les onomatopées, ce jazz qui joue avec la musique, qui joue avec la vie, qui joue avec les circonstances. Et c'était une chanson pansement, et après, ben, c'est resté une chanson... voilà, il y a plein avec Michel Legrand, et puis aussi, je dois l'avouer, sans le trahir, avec plein d'autres personnes. J'aime beaucoup, beaucoup la chanson, mais je me suis arrêtée un petit peu trop tôt. Je veux dire, l'autre jour j'ai entendu Abdelmalik, donc le rappeur, qui chantait, je sais même pas comment ça s'appelait, enfin qui rappait, je me dis tiens, ça c'est quand même extrêmement intéressant aussi. Mais la chanson, moi j'ai surtout découvert dans les cabarets avec Barbara, avec Jean Ferrat, avec Christine Sèvres, avec plein d'autres, Pauline Julien, dont on se connaît plus maintenant, et je me suis un peu arrêtée à ça. Et puis voilà, en fait, c'est les chansons à texte que j'aime bien.
Et vous avez réussi, vous, à dépasser ce chagrin d'amour avec cette chanson ?
Oh, bien longtemps, oh, mais oui, bien sûr.
Ah, avec la chanson, merci Michel Legrand.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Vous avez intégré très jeune, je crois, l'Opéra de Paris. On dit comme petit rat, c'était comme
oui,
ça déjà ?
Oui, oui.
Et vous gardez quoi comme souvenir de ce moment, de ce début ? Vous disiez tout à l'heure que ça vous avait structuré, mais est-ce que c'était du plaisir, de la joie ? Est-ce que vous avez pu vous projeter à partir de là ?
Oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'avais pas le goût de la compète. Alors, le faire me plaisait. Maman n'était pas une mère de danseuse, même si elle aimait la danse. Et je me suis fait de grandes amies que j'ai encore maintenant. Mmh. Et danser ensemble avec la musique, le piano. Et je me sentais pas la préférée du professeur, ni avec un grand destin. Donc, je dansais, j'apprenais, je sentais que parfois je ne progressais pas aussi vite que je le devrais, mais j'avançais, je continuais. Mais c'est compliqué l'école de danse. Hein.
Pourquoi ?
Parce que chaque année, on peut être, j'allais dire viré, un peu tribal, mais tribal non, un peu trivial, mais tribal aussi peut-être, merci Freud. Mais je veux dire que on n'était pas sûr de rester. Et le fait de franchir chaque étape pour arriver finalement à être entré dans le corps de ballet, c'est une marge de progression, voilà, qui se manifestait.
I got
rhythm.
I got
music.
I got
my gal who could ask for anything more.
I got
Daisy.
I got
in green pastures.
I got
my gal who could ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door.
Vous comprenez ça?
Non! I got
rhythm.
I got
music.
I got
my gal who could ask for anything more. Who could ask for anything more?
moi, j'ai de la musique. J'ai ma chérie, who could ask for anything more? J'ai des daisies dans green pastures. J'ai ma chérie, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him hanging round my door.
Gene Kelly interprète I Got Rhythm de George Gershwin, extrait de la bande originale du film de Vincente Minnelli, un Américain à Paris. Gene Kelly, pour vous, Brigitte Lefèvre, parce que j'ai entreaperçu, vu que vous aviez eu la chance de le rencontrer, danser même avec lui.
Je me suis vantée. Oh non, je vais pas danser avec lui. Mais en fait, c'est Claude Bessy qui était une danseuse étoile formidable, directrice de l'école de danse, et qui avait été un petit moment aux États-Unis, qui avait rencontré Gene Kelly. Il avait réussi à convaincre, je crois que c'était Julien, qui était l'administrateur de l'époque, à ce que Gene Kelly vienne faire un ballet. Je trouve ça formidable, sur une musique de Gershwin, qui s'appelait Pas de Dieu. Et il fallait à un moment donné, j'étais jeune danseuse à l'école de danse, mais quand même en fin d'école. Et il fallait d'avoir 2-3 danseuses en plus. Donc il a fait passer une audition. Et alors, c'est les fiertés qu'on a, voilà, et j'ai été choisie. Et j'ai pas dansé avec lui, mais je l'ai vu danser, j'ai vu répéter, il m'a fait répéter avec d'autres, mais pour moi, il y avait que moi. Et je me souviens qu'il avait dit café espagnol. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je pensais qu'il fallait rire. Je comprends jamais trop ces choses-là. Et en fait, c'était café au lait. Alors, on a beaucoup ri, évidemment, parce que c'était Gene Kelly. Je ne suis pas sûre que vos auditeurs vont rire. Je ne vous ai pas vu sourire non plus. Mais café au lait, café espagnol par Gene Kelly, c'était mieux que tout. Et la générosité qu'il a manifestée pour faire cette chorégraphie, le savoir qu'il a manifesté, c'était un moment formidable. Ça a eu énormément, énormément de succès. Là, vous savez, on a toujours l'impression, moi en tête d'ailleurs, qu'on invente, qu'on n'a jamais... Mais en fait, il y a eu ça. Ouais. Et c'était formidable.
Et vous le disiez en l'écoutant, mais vous avez apprécié ce savoir, justement, on parlait de la voix, du corps, ce rapport entre la voix et le corps. J'imagine que vous, comme jeune danseuse, ça a dû vous interpeller.
Oui, puis il y avait le cinéma, le fait de le voir au cinéma. Nous, on aimait beaucoup aussi Audrey Hepburn, parce qu'elle avait fait de la danse, par exemple. Il y avait cette présence très gracile, très longiligne. On aimait bien Bardot aussi, à cause de ça, qui avait été une danseuse classique, qui avait travaillé avec Jeanne Schwartz. Mais lui, c'est très sexy, quoi, en plus, déjà, dans sa manière de danser. Et puis, on parle de l'instrument du corps du danseur, mais il est presque un instrument à la fois du corps du danseur et de musique, si vous voulez. Le chant, la danse, cette musique, cette façon d'être, et puis ses yeux qu'il avait en regardant ses partenaires, c'était un type formidable.
Est-ce que c'est un début d'ouverture vers ces autres musiques et ces autres danses qui vous ont accompagné finalement assez vite, Brigitte Lefèvre, cette ouverture qui a été toujours la vôtre, qui a été remarquée d'ailleurs.
Oui,
on va le voir là, qu'on va voir au cours du festival qui aura lieu prochainement, enfin du 29 novembre au 15 décembre.
Oui, mais en fait pas tellement, parce que j'ai l'impression, alors c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais la danse contemporaine est très contemporaine, la danse classique est très classique d'abord. Et nous, en fait, les danseurs, on n'a qu'une envie, c'est que les choses ne se mélangent pas, hein, je veux dire que ça devienne pas une autre couleur, mais que ça devienne autre chose. Et pas tellement dans la musical comedy, et pas tellement ce goût, peut-être davantage maintenant. Non.
La glorification de l'élu du Sacre du Printemps de Stravinsky, interprété par l'orchestre du théâtre de Mariinsky sous la direction de Valérie Gergiev. Brigitte Lefèvre, on parlait de cette ouverture. Alors voilà, une œuvre musicale qui a conduit à bien des ouvertures, tant sur le plan musical, d'ailleurs aussi chorégraphique, puisque il y a eu pas mal de chorégraphies qui ont marqué l'histoire de la danse.
Oh, bien sûr. Et alors, ça en parle beaucoup évidemment des ballets russes, et avec raison. Le Sacre du Printemps, moi je n'ai jamais vu une chorégraphie ratée.
C'est vrai?
Ah oui. C'est pas avec un esprit forcément très bienveillant, quoique j'essaie qu'il ne soit pas malveillant, mais c'est une telle pulsion. Alors moi, j'ai eu la chance de danser le rôle de l'élu dans la chorégraphie de Maurice Béjart. Quand j'entends cette musique qui précède le solo, j'en ai encore là l'émotion qui renaît, et c'est magnifique. Et le Sacre du Printemps de chorégraphié par Maurice, il y en a eu d'autres, hein. Il y a celui de ma chère Pina Bausch qui a accepté que je puisse le faire rentrer dans le répertoire de l'opéra, ce qui a été très très marquant pour beaucoup dans la compagnie. C'est formidable. Oui, l'ouverture, oui, mais alors, l'ouverture, j'allais dire, pour moi, c'est fatal. Dans le sens que quand j'ai quitté l'opéra, j'étais assez jeune, j'étais même plutôt jeune, et c'était à la fois pour m'adresser à un autre public avec un autre type de danse.
C'était le théâtre du silence.
C'était le théâtre du silence. Oui, merci de s'en souvenir. Ça fait longtemps. Et c'était la possibilité de faire nos propres chorégraphies avec Jacques Garnier, mon cher Jacques Garnier, qui hélas n'est plus de ce monde, mais sans lui, ça n'aurait pas été possible. Et on faisait nos propres chorégraphies. On a eu la chance que Merce Cunningham nous a confié deux de ses chorégraphies, Maurice l'Oiseau de Feu, avec qui on a travaillé, et puis des gens tout à fait très jeunes, nous-mêmes, et puis on allait dans les collèges, dans les prisons, dans les de tout ce que le ministère de la Culture préconise maintenant. Moi, je suis pas sûr que j'aurais eu envie de le faire maintenant, parce qu'on me le demande. Enfin, on le demande. On a raison de le demander, hein. Mais moi, ce que je trouvais formidable, c'est qu'on avait envie de le faire, quoi. Mmh. On avait reçu beaucoup grâce à l'opéra, grâce à ces grands chorégraphes, Roland Petit et autres, et on avait envie de redonner, et puis aussi d'essayer nous-mêmes d'avoir le culot de faire nos propres chorégraphies.
Est-ce que le Sacre du Printemps a fait partie des œuvres que vous avez données à voir en prison, Brigitte
Lefebvre ? Non, j'ai pas osé. Non, c'était plus simplement parfois des ateliers, ouais. Et puis aussi des duos. Parce que je suis pas sûre, on m'avait déconseillé d'y aller seule à l'époque, donc on y était allé Jacques et moi, et chez les femmes. Et c'est bon, moi je connais pas comment ça s'est passé chez les hommes. L'orchestre de chambre de Paris, donc que je préside, va beaucoup dans ce type d'endroit, et c'était très émouvant de danser devant des femmes qui étaient, j'allais dire cloîtrées, qui étaient enfermées, quoi, par la force des choses.
Donna Brown et Stéphane Lemelin interprètent Silence ineffable, une romance de Claude Debussy. Pour évoquer avec vous, Brigitte Lefebvre, le silence, parce que ce théâtre du silence qui porte un nom très intéressant, qui va en prison, dans ces endroits où le silence est particulier aussi, m'ont donné envie de vous interroger sur le titre de ce théâtre, pourquoi avoir choisi le théâtre du silence, et aussi en regard avec le mouvement et la musique.
Bah, d'abord, en ce qui concerne les prisons, moi je suis heureux de l'avoir fait, mais on n'a pas fait que ça. Je veux dire, c'est parce qu'on faisait autre chose qu'on avait le goût d'aller aussi dans ces lieux, rencontrer un autre type d'humanité. Le silence, j'allais dire, c'était presque un gag, parce qu'on cherchait désespérément, Jacques et moi, un nom de compagnie. C'était au moment du Théâtre du Soleil, il y avait, voilà. Et puis, je crois qu'on a dit toutes les bêtises nécessaires, et puis à un moment donné, il y a eu un long silence entre nous. Et on a dit que ce serait le Théâtre du Silence. Je dis « on » parce que je pense que c'est venu naturellement. Est-ce lui, est-ce moi, je ne sais pas. Mais c'était le Théâtre du Silence. Et je pense que ça évoque vraiment pour nous ce silence qu'on se doit de faire avant d'écouter, avant de voir, avant de lire même. Je veux dire, il faut faire silence pour pouvoir accueillir. C'est pas barbant, c'est pas contraignant. C'est un moment de disponibilité, quoi. On s'offre à l'œuvre qui va arriver vers vous.
Le silence dans le mouvement aussi, j'imagine.
Oui, mais gérer le silence dans le mouvement, je dirais même aussi, évidemment, de manière qui se veut pas seulement paradoxale, je dirais même l'immobilité dans le mouvement. Oui. Donc, c'est quelque chose que Merce Cunningham, et surtout John Cage, parce que j'ai fait des ateliers, j'ai eu la chance de faire des ateliers avec lui, et qui m'a appris ça, quoi. Je veux dire, il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Silence, je crois que c'est oui. Daniel Charles, qui est remarquable. Et c'est une forme philosophique de manière d'appréhender le monde, d'appréhender l'écoute, d'appréhender le mouvement, effectivement, et le silence y participe.
Après ce théâtre du silence, vous avez été inspecteur principal de la danse pour le ministère de la Culture. Oui. Ça veut dire quoi, ça,
ben, écoutez, c'est la question que je lui ai posée quand on me l'a proposé.
Oui, c'est vrai.
Et c'est un homme absolument merveilleux qui s'appelait Igor Esner, qui a été le compagnon de Michel Guy. Et qui était inspecteur général, lui, donc qui était mon supérieur. Et c'est Maurice Fleuret, le merveilleux Maurice Fleuret, qui était directeur de la musique, qui m'a demandé de travailler avec lui. Je sais, écoutez, c'est affreux, j'aurais dû le savoir, parce qu'on était quand même subventionné par le ministère. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait un inspecteur qui nous regardait. Et effectivement, j'ai accepté. J'avais vraiment arrêté parce que je venais d'avoir, nous venions d'avoir mon mari et moi-même notre fille, notre petite Mathilde, et j'avais plus envie de parcourir le monde parce que au-delà de ce qu'on faisait dans les différents lieux qui ont été évoqués par vous et par moi, on allait dans le monde entier, voilà. Et j'avais envie de me consacrer différemment. Et puis il y avait beaucoup de choses qui évoluaient. Je sentais que j'avais fait le tour un peu. Mmh. Et on m'a proposé cela. J'ai accepté. Je ne savais même pas ce que c'était que de m'asseoir plus de une heure derrière une table. Mais je l'ai fait avec une pile de parapheurs, TTU et tout ça. Et puis après, c'était avec Jacques Lang. Et puis après, Léotard est arrivé. Il a créé une délégation à la danse. Et il m'a demandé d'être déléguée à la danse. Donc, j'étais sa principale collaboratrice. Ça a été suivi par Lang après, en ce qui concerne la danse. C'était nouveau pour moi et ça m'a beaucoup intéressée.
Ça vous a ouvert à d'autres univers, je
Oui, oui.
Give me a few words See me. to me to roof.
Cathy Berberian interprète Sequenza 3 de Luciano Berio, qui est vraiment un exercice... Enfin, c'est la voix qui suscite l'intérêt musical à elle seule. C'est une vocalité nouvelle, une façon d'interpréter qui est insolite. Brigitte Lefèvre, c'est une œuvre que vous avez appris à aimer avec le temps. Comment ça s'est passé, justement, par rapport à ces ouvertures qui se font au fil du temps?
Et ça s'est passé grâce à Michel Discombet, qui a été un maître de ballet, directeur de la danse, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, qui était chorégraphe et qui avait fait une soirée Berio, qui avait chorégraphié une soirée Berio à l'Opéra Comique. Déjà, Opéra Comique, déjà très, très bien. Mmh. Et il y avait donc Laboratus 2, dans lequel je dansais. Il y avait un long pas de deux, je me souviens que je faisais avec Jean Guizrix. Mais avant, il y avait Martine Parmain, une sublime danseuse, qui faisait un solo sur cette musique.
Ça ne doit pas être simple.
Mais on n'est pas là pour faire les choses simples. Et il y avait Cathy Berberian qui est venue, ouais, et qui avait dû adorer, ainsi que Berio était un petit peu plus réticent, mais elle avait trouvé ça formidable. Et j'avais une énorme admiration pour cette dame. On sentait que c'était une diva, quoi. Mais ouais. Une diva dans le bon sens du terme. Et cette gaieté, cette générosité, ce souffle, ça qui est incroyable. Là, quand on entend ça, nous évoquons tout à l'heure la danse, le corps, l'investissement que ça peut représenter, c'était extraordinaire. Mais au début, je ne vous cache pas, mais c'est plutôt dans Labyrinthus 2 qu'au début, je me disais, j'avais du mal à danser, j'avais du mal à m'accrocher à des sons. Et puis d'un seul coup, progressivement, d'où l'importance de l'écoute hein, et de la répétition de l'écoute, d'un seul coup, au bout d'une semaine de travail, j'ai pris un plaisir extrême à danser sur cette musique. Et donc, j'ai associé Cathy Berbaillan à cet apprentissage, à cette aventure.
Et vous qui disiez qu'il y avait dansé, écouté, fait danser sur des musiques toutes votre vie encore maintenant, est-ce que vous avez pu observer que, à force d'écouter des œuvres, de les entendre, de les voir, votre goût a évolué, voire a pu apprécier des choses que vous n'aimiez pas
Absolument. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'allais beaucoup au Festival de Royan, je connais bien Portal, je connais bien Jean-Pierre Drouet et bien d'autres, mais enfin, en particulier Diego Masson, enfin, ça fait un petit moment. Et j'allais au Festival de Royan, après, il y avait les RIAC à La Rochelle, il y avait vraiment des festivals d'art contemporain. Je connaissais un peu Musica, mais j'y suis moins allée. Et en fait, c'est un plaisir fou. Je me rappelle d'avoir entendu une œuvre de Nono, c'était avec deux parties orchestrales, deux parties de l'orchestre séparées. Il y a une émotion folle, je me rappelle de Globocar, Ostralungen, on aime ces sons, on est vivant avec eux.
Oui, et à l'inverse, vous disiez en écoutant Tchaïkovski au tout début de cette émission, vous disiez, peut-être que jeune, ça me lassait un peu, et plus le temps passe, et plus j'aime. À l'inverse, ça peut aussi se produire dans ce sens-là.
C'est vrai.
Thank you.
La marche troyenne des Troyens de Berlioz par l'Orchestre symphonique de la BBC sous la direction de Andrew Davis. Alors là, c'est vraiment la musique grandiose, Brigitte Lefèvre, qui nous renvoie à un moment précis du ballet de l'Opéra de Paris.
Un grand cérémonial.
Oui, c'est ça.
C'est le défilé du corps de ballet. Alors évidemment, mon ami Philippe Jordan, que je vénère, il a dirigé une fois, je crois. Je suis même pas sûr qu'il l'ait finalement fait. Et il n'aimait pas ça parce qu'on n'arrête pas de faire des reprises, nous, dans le ballet, parce qu'il y a plus de 300 personnes. Donc il faut faire des reprises, des reprises, des reprises. Mais c'est quand même formidable. Et moi, j'ai eu la chance d'être petite et d'être la première petite fille comme ça qui ouvrait comme ça ces 300 artistes qui suivaient. Et quand vous entendez cette musique, c'est absolument, absolument extraordinaire. À tel point que quand je l'entends pour le défilé et que j'ai entendu dernièrement, quand ça a été joué à l'opéra, dans la mise en scène de Tcherniakov, je n'entends pas la musique de la même manière.
C'est vrai.
Mais oui, c'est autre chose. C'est un autre, là, c'est une espèce de grosse Madeleine de Proust.
Oui, c'est ça. Et est-ce que, on parlait tout à l'heure de ces musiques, pas dont on se lasse, parce que c'est difficile de se lasser, c'est d'une musique, mais qui se détache tellement d'un contexte que finalement, par exemple, quand on danse et on répète des pas sur une musique, peut-être que finalement on ne l'entend plus de la même manière que l'auditeur.
C'est souvent les tempi. Dans la danse, c'est souvent les tempi. Moi, je me battais beaucoup pour ça. Très souvent, les danseurs, les maîtres de ballet veulent ralentir pour que ce soit plus aisé de pouvoir faire tel ou tel pas, et je comprends pourquoi. Hein. Mais là, c'est différent dans le cas de Berlioz et du défilé du corps de ballet.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Brigitte Lefèvre, chorégraphe, actuellement directrice du Festival international de danse de Cannes Côte d'Azur, est l'invitée donc de Musique et moi jusqu'à 12h30 sur France Musique. Et je voulais revenir sur ces 20 années passées au Ballet de l'Opéra de Paris, parce que Hugues Gall donc fait appel à vous. Vous étiez à ce moment-là, vous travailliez pour le ministère de la Culture. Comment vous l'avez pris?
Ah non, en fait, Lang et Pierre Berger m'avaient demandé de venir à l'Opéra après un moment assez troublé. Finalement, il y a toujours des difficultés à l'Opéra. D'ailleurs, c'est beaucoup plus calme depuis de nombreuses années, ça revient. Mais et en fait, on m'avait demandé d'être administratrice générale de l'Opéra Garnier. Oui. Que j'étais pendant 2 ans, et quand Hugues Gall, que je vénère, est arrivé, il m'a dit, t'as rien à faire comme administratrice générale de l'Opéra Garnier, on va faire autrement. Et il a fait d'ailleurs une réorganisation de l'Opéra absolument exemplaire, sur lequel l'Opéra vit encore, hein, je veux dire, vraiment, il a fait un travail formidable, et il a eu encore plus la meilleure idée de me demander d'être directrice de la danse, et c'était un peu bizarre, parce qu'au début, j'avais l'impression, j'ai jamais été étoile, j'ai pas une immense chorégraphe, et j'avais l'impression d'être un peu un canard qui dirigeait des signes, mais je crois qu'il faut pas avoir ce complexe-là. Finalement, je pense que l'expérience que j'avais, le fait que quelqu'un comme Hugues Gall me demande, c'est pas quelqu'un qui fait les choses pour faire plaisir, et ben finalement, j'avais donc une mission à remplir et j'y ai mis tout mon cœur et tout mon cœur.
Et ça vous a plu?
Oui. Ça m'a plu, j'avais l'impression, mais il n'y avait pas qu'un complexe. On m'a dit, il y avait un complexe que beaucoup de femmes ont, qui ont l'impression qu'elles sont jamais assez bien, qu'elles n'arrêtent pas de bosser.
D'illégitimité.
Alors, il me semble que je l'ai eu au départ, et après, je me suis dit, je bosse bien, vas-y, continue ma cocotte.
Es wird das Sein der Welt.
Infernum Land, l'air de Lohengrin de Wagner, interprété par Jonas Kaufmann avec l'orchestre de chambre Mahler sous la direction de Claudio Abbado. On parlait de l'opéra, justement, à l'instant, Brigitte Lefèvre. Cette chance d'être des deux côtés, j'ai envie de dire, de diriger des danseurs et puis à la fois d'être tout le temps en contact avec la scène de l'opéra et sa dramaturgie, ça faisait partie de vos plaisirs dans ces belles années à l'Opéra de Paris?
Ah oui, énorme, énorme, c'est un plaisir fou. Et quand j'entends, par exemple, merci, hein, parce que c'est un cadeau de faire entendre ça, je me dis qu'il n'y a même pas grand-chose à dire de ma part. Je veux dire, on est là, on entend, on ressent ce qu'est le héros wagnérien, mais le héros, pas de mauvaise manière, au contraire, cette espèce de d'humanité, de force, d'amour, et puis ça se termine mal, c'est affreux, puis ça se termine mal, mais ça se termine pas mal non plus, le signe revient. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment... Moi, j'aimais beaucoup Wagner, et j'aimais Wagner quand j'étais enfant, ce qui surprenait. Alors j'ai dû entendre, alors j'avais décrété que j'aimais Wagner et que j'aimais Schumann.
On va avoir la chance d'écouter Schumann dans quelques instants. Juste finir sur ces 20 années passées à l'Opéra de Paris. J'imagine qu'il faut penser à tout, y compris évidemment au répertoire, à ce que l'on va proposer. Mm-hmm. C'est une rude tâche que de savoir s'adresser à un public et peut-être amener le public à d'autres musiques, à d'autres formes d'interprétation de la danse.
C'est-à-dire qu'à l'opéra, il y a des publics. Hein. Le public, c'est des publics. Il y a un public qui est captif, hein, si on peut dire. Un public qui vient de temps en temps. Un public, voilà. Et je pense j'ai toujours l'impression qu'il fallait se projeter, mais il fallait également s'effacer par rapport à ses goûts. Le fait de dire je suis la plus moderne, j'ai le plus ceci, j'ai le plus cela, mais on s'en fout complètement, finalement. Ce qui est important, c'est donner à voir. C'est aussi faire vivre ces artistes. Je pense aux danseurs, bien sûr, mais je pense aussi aux musiciens que j'aime beaucoup. J'adore cet orchestre. Et tout cet apprentissage qu'ils ont, comment ils vont pouvoir le faire vivre, le faire fleurir, le faire évoluer. Donc, faut jamais les cantonner. Mais il ne faut jamais qu'on leur fasse oublier pourquoi ils ont choisi la danse. C'est très, très multiple, c'est très complexe. Pour ceux qui dirigent, on doit avoir l'ambition, la culture, l'expérience et, j'allais dire, l'oubli de soi.
Thank you.
Un extrait des scènes d'enfants de Robert Schumann interprété par Maria Joao Pires. Pour presque terminer cette émission avec vous, Brigitte Lefèvre, vous disiez qu'il y avait dans votre enfance, il y avait Wagner et Schumann. Mm-hmm. Mais sans raison ou parce que votre mère, une fois de plus, l'interprétait?
Mais ma mère le jouait. Alors cette partie, vous savez, vous évoquiez tout à l'heure avec raison les musiques qu'on entend trop et qu'on aime moins. Mm. Alors que là, c'est une musique que j'entendais souvent et que j'aimais de plus en plus. Et ça continue. Là, vous voyez, on l'a écoutée ensemble et on a eu du plaisir ensemble, j'ai l'impression de l'entendre. Et puis j'avais fait aussi un pas de deux avec Michel Denard, le magnifique Michel Denard, sur la vie et l'amour d'une femme, avec son enregistrement avec Catherine Ferrier. Et j'avais toujours l'impression, j'avais travaillé sur Schumann, sur Clara Schumann. Et alors, je m'étais, pour plaisanter avec mes amis, je disais, mais si il avait été plutôt avec moi qu'avec Clara, sa vie ne se serait pas terminée comme ça. C'est ce qu'on appelle la folie, de ma part.
La schizophrénie que vous évoquiez tout
à l'heure. Vous voyez que j'ai pas si tort. Mais peut-être moins de nihilisme, mais de plus en plus de schizophrénie.
Ça va être l'heure de se quitter. Déjà, je voulais qu'on termine avec le salut d'amour d'Elgar, interprété par Gauthier Capuçon, parce que ça fait partie de vos derniers coups de cœur. Il est avec l'Orchestre de Chambre de Paris. C'est un disque qui a été enregistré il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce salut d'amour? Pour se dire au revoir, c'est parfait. Mais c'est Gauthier Capuçon, c'est l'arrangement.
Alors c'est plusieurs choses, comme souvent d'ailleurs. Je connaissais mal Elgar, je veux dire, comme en tant que compositeur, et j'étais allée à Londres, je crois. À Londres, il y avait une espèce de réunion des orchestres de jeunes du Conservatoire supérieur de Paris et des élèves de Manchester qui jouaient ensemble une œuvre, les variations énigmatiques d'Elgar. Je ne connaissais pas bien, j'ai honte de le dire devant vos auditeurs qui doivent connaître ça très bien. Et ça m'a beaucoup ému d'entendre ça. Et puis, l'Orchestre de Chambre de Paris, comme je vous ai indiqué, j'ai la chance de présider. Le directeur général est évidemment Nicolas Drouin et le directeur musical est Douglas Bog. Et j'ai entendu ce disque avec effectivement Gauthier, que j'admire énormément. D'abord, je crois, plus je vieillis, plus j'aime le violoncelle aussi. Et il y a Déborah Namtanou, qui est notre super soliste violoniste, et l'Orchestre de Chambre de Paris, qui est dans mon cœur. Je dis, ben voilà, c'est une espèce de différentes raisons, et des raisons aussi qui me conseillent le fait de vous le proposer.
On va l'écouter tout de suite. Je voulais juste rappeler, avant qu'on ne se quitte, que le Festival international de danse de Cannes Côte d'Azur aura lieu du 29 novembre au 15 décembre 2019 et que la programmation, comme je le disais en préambule de cette émission, est extrêmement variée. On va vraiment sur des terrains de danse et de musique qui vont de la musique classique au hip-hop en passant par une façon de relire le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Bref, j'invite tous les auditeurs à prendre rendez-vous avec vous et date. Merci beaucoup.
Merci.
Salut d'amour pour se dire au revoir. Merci,
merci.
Brigitte Lefèvre.
Thank you.
Gauthier Capuçon avec l'orchestre de chambre de Paris sous la direction de Douglas Boyd interpréter le salut d'amour de Elgar pour terminer cette émission en compagnie de Brigitte Lefebvre qui était donc l'invitée de Musique et moi. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. Merci à Philippe Mercher qui était à la prise de son, Sophie Pichon réalisation, Marie Ferdinand attachée de production. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Très belle semaine à l'écoute de France Musique et à dimanche 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.